Antoinette Fouque présente « Des yeux de soie » de Françoise Sagan, lu par Anouk Aimé.
Des yeux de soie. Jérôme Berthier conduisait trop vite sa voiture, et sa femme, la belle Monica, avait besoin de toute sa nonchalance pour ignorer ses imprudences. Pourtant, il partait en week-end chasser lézards, ce qui était pour lui une véritable partie de plaisir, car il aimait la chasse et sa femme et la campagne, et même les amis qu'ils allaient chercher. Stanislas Brem et sa compagne. Celle-ci, changeant pratiquement tous les 15 jours depuis le divorce de Stanislas. « J'espère qu'ils sont à l'heure, » dit Jérôme. « Quelle fille crois-tu qu'il va nous amener cette fois-ci ? » Monica sourit d'un air fatigué. « Comment veux-tu que je le sache ? J'espère que ce sera une sportive. Votre chasse est dure, non ?» Il hocha la tête. « Très dur. Je me demande ce qu'il a quand même, Stanislas, à faire le bellâtre à son âge, enfin à notre âge. » En attendant, s'il n'est pas prêt, nous allons louper l'avion. Tu ne loupes jamais rien, dit-elle, et elle se mit à rire. Jérôme Berthier jeta un coup d'œil oblique vers sa femme, se demandant une fois de plus ce qu'elle voulait dire par là. Il était un homme viril, fidèle et tranquille. Il se savait assez séduisant, et depuis 13 ans qu'ils étaient mariés, il assurait à cette femme, la seule qu'il eût jamais aimée, une vie des plus agréables et des plus rassurantes. Parfois, cependant, il se demandait ce qu'il y avait derrière la tranquillité, les yeux sombres et calmes de sa belle épouse. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-il. « Je veux dire que tu ne loupes rien, ni tes affaires, ni ta vie, ni tes avions. Je pense même que tu ne louperas pas cet isard. » « Je l'espère bien, » enchaîna-t-il. « Je ne vais pas à la chasse pour tirer en l'air, et crois-moi, c'est l'animal le plus dur à traquer. » Ils arrivaient devant un immeuble du boulevard Raspail et Jérôme klaxonna 3 fois, jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre et qu'un homme apparaisse en faisant de grands signes de bienvenue. Jérôme sortit la tête de la portière et hurla « Descends, mon vieux, on va louper l'avion !» La fenêtre se referma et 2 minutes après, Stanislas Brem et sa compagne sortaient du porche. Stanislas Brem était aussi long, flexible et inquiet d'allure que Jérôme était sûr, solide et décidé. La jeune femme était blonde, ravissante, l'air susceptible, une de ces femmes dites de week-end. Ils s'engouffrèrent par la portière arrière de la voiture et Stanislas fit les présentations. « Monica, ma chère, je vous présente Betty. Betty, voici Monica et son époux, le fameux architecte Berthier. À partir de maintenant, tu es sous son autorité, c'est lui qui mène la barque. » Ils se mirent tous à rire distraitement et Monica serra avec gentillesse la main de cette Betty. La voiture repartit en direction de Roissy. Stanislas se pencha en avant et demanda d'une voix un peu aiguë « Êtes-vous contents de partir tous les deux ?» Sans attendre la réponse, il se retourna vers sa compagne et lui sourit. Il était extrêmement séduisant, dans le genre gay, un peu dégénéré, un peu playboy, un peu loup. Et comme fasciné, Betty lui sourit en retour. « Figure-toi, reprit-il à tue-tête, je connais cet homme depuis 20 ans. Nous étions à l'école ensemble. Jérôme avait toujours les premiers prix. Et quand on se battait en récréation, il avait le meilleur coup de poing. Et souvent pour me défendre, car j'étais déjà odieux. » Et lui désignant Monica, « Je la connais depuis 13 ans. C'est un couple heureux, ma chère, regarde bien. » À l'avant, ni Jérôme ni Monica ne semblaient l'écouter. Un léger sourire presque complice leur plissait les lèvres. « Et quand j'ai divorcé, reprit Stanislas, c'est eux qui m'ont consolée, car j'étais fort triste. » La voiture allait très vite à présent sur l'autoroute du Nord, et la jeune Betty dut hurler pratiquement sa question. « Pourquoi triste ? Ta femme ne t'aimait plus ?»« Non, hurla Stanislas en retour, c'est moi qui ne l'aimais plus, et crois-moi, pour un gentleman, c'est épouvantable. » Il éclata de rire et se rejeta sur le dossier de la voiture. Après, il y eut Roissy, l'enfer de Roissy. Ils admirèrent l'efficacité de Jérôme qui présentait les billets, faisait enregistrer les bagages, s'occupait de tout. Les trois autres le regardaient, les deux femmes naturellement habituées à ce qu'un homme s'occupât d'elles, et Stanislas semblant mettre un point d'honneur à ne pas bouger. Puis il y eut ces couloirs, ces tapis roulants où ils défilèrent sous cellophane, deux par deux, immobiles, comme glacés, images préfabriquées des couples aisés de notre temps. Puis il y eut l'avion. Ils étaient en première, les uns derrière les autres, et par le hublot, Monica regardait défiler les nuages sans même parcourir la revue qu'on lui avait confiée. Jérôme se leva et tout à coup, près d'elle, il eut le profil de Stanislas qui lui montrait apparemment quelque chose de la main à travers le hublot, mais dont la voix disait « Je te veux, tu sais, débrouille-toi. Je ne sais pas quand, mais je te veux ce week-end. » Elle battit les paupières, mais ne répondit pas. « Dis-moi que tu veux aussi, » reprit-il toujours en souriant. Elle se retourna vers lui, le regarda gravement, mais avant qu'elle eût pu dire quoi que ce soit, le haut-parleur de l'avion annonça « Nous descendons sur Munich, regagnez vos places, attachez vos ceintures et arrêtez de fumer, s'il vous plaît. » Ils se dévisagèrent un instant, à la fois comme des ennemis ou des amants. Il sourit pour de bon, cette fois-ci, et regagna sa place. Jérôme retournait s'asseoir près d'elle.